Le DPE, une opportunité d'optimisation du patrimoine du chirurgien-dentiste. Depuis sa création en France en 2006, ce dispositif a été fiabilisé et renforcé à plusieurs reprises, jusqu'à perdre son caractère simplement informatif pour devenir pleinement opposable depuis juillet 2021. Pour mémoire, le DPE, ou diagnostic de performance énergétique, renseigne sur la performance énergétique et climatique d'un logement ou d'un bâtiment, étiquette de A à G, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de gaz à effet de serre et sert notamment à identifier les passoires énergétiques. Étiquette F et G du DPE, c'est-à-dire les logements qui consomment le plus d'énergie et ou émettent le plus de gaz à effet de serre. Il a pour objectif d'informer l'acquéreur ou le locataire sur la valeur verte, de recommander des travaux à réaliser pour l'améliorer et d'estimer ses charges énergétiques. Sauf exception, la réalisation d'un DPE est obligatoire à l'occasion de la vente d'un logement ou d'un bâtiment, lors de la signature d'un contrat de location d'un logement ou d'un bâtiment d'habitation, ainsi que pour les bâtiments neufs. Dans le cas de vente ou de location, le DPE s'intègre dans le dossier de diagnostic technique, le DDT, qui regroupe l'ensemble des constats ou états qui doivent être annexés à l'avant-contrat de vente ou au contrat de location. Le DPE doit être tenu à disposition de tout candidat acquéreur ou locataire qui en fait la demande dès la mise en vente ou en location du logement ou du bâtiment. La loi Climat et Résilience rend également obligatoire la réalisation d'un DPE pour tous les bâtiments d'habitation collective à l'échelle du bâtiment selon un calendrier échelonné. Le 1er janvier 2024 pour les immeubles en monopropriété et pour les copropriétés de plus de 200 lots. Le 1er janvier 2025 pour les copropriétés entre 50 et 200 lots, le 1er janvier 2026 pour les copropriétés d'au maximum 50 lots. Le DPE doit être effectué à l'initiative du propriétaire du logement, à ses frais, qu'il s'agisse d'un propriétaire privé ou public. Son tarif n'est pas réglementé. Le DPE doit être établi par un diagnostiqueur qui est un professionnel indépendant satisfaisant à certains critères, notamment de certification et ayant souscrit une assurance professionnelle et dont la liste peut être consultée sur l'annuaire officiel en lien. Il a également été renforcé par la réforme de la loi sur les logements décents, également en lien, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain. En étudiant l'impact des réformes sur le marché de la vente et de la location de biens et sur le comportement des banques quant au financement des transactions immobilières, certains investisseurs comme Michel Ferrari se sont rendus compte qu'elles créent en réalité de nouvelles opportunités d'optimiser son patrimoine, selon trois stratégies à mettre en place: exploiter la confusion, jouer la montre et, le plus important, rénover malin. L'idée est de se positionner sur des biens mal notés, qui auront donc du mal à convaincre les banques concernant le financement d'une résidence principale, mais pourront être perçus comme un projet intelligent avec un plan de rénovation afférent pour un investissement locatif ou en vue de revente avec plus-value. Stratégie 1, exploiter la confusion. Le DPE est donc un ensemble de paramètres qui vont être entrés par le diagnostiqueur dans un logiciel. Et la première chose à savoir, et première source de confusion, c'est que le diagnostic peut varier de façon importante d'un diagnostiqueur à l'autre, jusqu'à constater une lettre d'écart entre deux diagnostics sur un même bien. En effet, de très nombreux paramètres entrent en jeu, dont certains qui ne semblent pas être liés à la consommation énergétique proprement dite du logement, comme l'altitude du bien, sa situation géographique, sa surface, et ces paramètres peuvent changer la donne. D'autres confusions naissent d'une mauvaise compréhension des textes de loi. Par exemple, ce qu'on entend en ce moment, c'est que les logements notés G seront interdits à la location à compter du 1er janvier prochain. Or, ce que nous dit réellement le texte de loi, c'est que la consommation devra être inférieure à 450 kWh d'énergie finale par mètre carré de surface habitable et par an. Ce n'est pas la même chose. Un logement pourra en réalité être classé E ou F grâce à d'autres paramètres et être impropre à la location, ou à l'inverse, être classé G à cause d'autres paramètres, mais remplir cette condition et être loué. En outre, pour un logement tout électrique, l'énergie finale n'est pas celle calculée dans le DPE. Celui-ci, en effet, calcule l'énergie primaire, l'énergie finale étant soumise à un coefficient de 2,3, et donc un logement tout électrique évalué à 450 kWh dans le DPE restera tout à fait louable jusqu'en 2025, par exemple, puisque c'est la date officielle à laquelle les logements classés G ne pourront en effet plus être loués. Cela représente bien évidemment une opportunité en or de négocier un logement classé G ou présentant plus de 450 kWh sur leur DPE avec un rabais de 30 ou 40%, les propriétaires étant convaincus que leur bien ne peut plus être loué et n'ayant pas les fonds permettant de mettre à niveau, alors qu'il reste légalement conforme encore 2 ans durant lesquels vous pouvez l'exploiter. De même, les logements F pourront être loués jusqu'en 2028 et les logements E jusqu'en 2034. Il est évident que la panique actuelle des propriétaires bailleurs de logements mal notés est donc une occasion d'acquérir des biens parfaitement exploitables et donc rentabilisables pour encore plusieurs années à prix modique. Une autre source de confusion naît des contraintes liées à la copropriété. Là encore, certains propriétaires pensent que leur bien E, F ou G est condamné, alors que dans 3 cas, ils peuvent être exonérés des travaux et les logements restés légalement louables. Le bâtiment est classé, les contraintes techniques sont trop importantes ou toute autre cause d'impossibilité de réaliser les travaux. L'exonération peut en effet être accordée à tout propriétaire justifiant de ce que l'absence de travaux de mise à niveau n'est pas de son fait. Désaccord avec les autres copropriétaires ou impossibilité d'arriver à un accord, plan d'urbanisme s'opposant aux travaux, etc. L'opportunité consiste donc ici à acheter un bien dans une copropriété où la rénovation n'est pas de votre ressort. Stratégie 2, jouer la montre. Il est de notoriété plus ou moins publique que l'algorithme de notation du DPE est particulièrement mal adapté à l'évaluation des petites surfaces, en raison notamment de tous les facteurs pris en compte qui ne sont pas directement liés à la consommation d'énergie, mais plutôt à la construction et à la situation du bien. C'est en effet parmi les logements de moins de 30 mètres carrés que la part de passoire thermique, c'est-à-dire des logements classés en F ou en G, est la plus importante. La classe D est la plus représentée dans les petits logements, alors que pour les surfaces supérieures, la classe la plus représentée est C. Et plus la surface est grande, meilleurs sont les résultats. Ceci n'est pas dû à une meilleure qualité d'isolation pour les grandes surfaces, puisque à caractéristiques similaires, la petite surface aura toujours un résultat plus médiocre. La date de construction est aussi un facteur important dans le résultat. Sans surprise, ce sont les logements construits avant le premier choc pétrolier en 1974 qui sont les plus énergivores. Pour bien définir le concept de l'indice de compacité thermique, il faut savoir que nous avons un volume intérieur à chauffer et que ce volume présente des surfaces déperditives. Ce sont les faces du volume exposées à l'extérieur ou à des locaux non chauffés. Pour calculer l'indice de compacité thermique, il suffit d'additionner toutes les surfaces déperditives et de diviser cette somme par la surface habitable. Plus le résultat est petit, meilleure sera l'efficacité thermique du logement, et donc on aura un meilleur DPE. Un peu plus d'un tiers des studios sont classés en F ou G, alors que pour les 2 pièces, c'est un peu moins de 1/4 et environ 9% pour les 3 pièces et plus. Ce sont des logements de moins de 30 mètres carrés qui sont majoritairement représentés dans la classe E-AG. Les studios chauffés au fioul sont surreprésentés en classe E, F et G, respectivement 27, 26 et 18%. L'ADEME met à disposition du public un outil statistique qui, en fonction de l'énergie de chauffage utilisée, indique les répartitions de déperdition. Globalement, ce sont les murs qui sont les plus déperditifs, pour 39% sur les constructions antérieures au premier choc pétrolier et 28% à partir de 1975. Étonnamment, les fenêtres passent de 14 à 23%, sans doute à cause de l'élargissement des ouvertures sur ce type de bien. Les plafonds se positionnent en quatrième position sur les 6 postes de déperdition recensés. Alors, pourquoi les studios sont-ils défavorisés? On peut expliquer ce constat par plusieurs causes. On trouve beaucoup de studios en rez-de-chaussée ou en dernier étage et un logement avec un plancher sur sous-sol ou un plafond donnant sur un comble ou l'extérieur sera toujours moins bien noté. En effet, les plafonds ou planchers sont des surfaces déperditives importantes. Le ratio surface déperditive-surface habitable est plus défavorable. Par exemple, le ratio entre un studio présentera proportionnellement 2,5 fois plus de surface déperditive de murs qu'un appartement de même forme avec 4 fois plus de surface habitable. Enfin, les ponts thermiques sont plus importants. Si la configuration comporte des ponts thermiques de plafond et de plancher, il faudra ajouter les linéaires qui seront toujours proportionnellement plus importants sur les petites surfaces. La seconde stratégie va donc consister à prendre en compte cette incohérence et à jouer la montre, en négociant au maximum des biens de petite surface aisément et rapidement améliorables, en attendant que l'algorithme ne soit affiné, ce qui entraînera déjà a priori une hausse des notes avant même toute intervention concrète sur le bien. En outre, à l'heure actuelle, ces petits biens peuvent toujours être exploités dans le cadre de locations occasionnelles de type Airbnb, dans l'attente de la correction de l'algorithme, les obligations afférentes au DPE ne s'appliquant pas pour l'heure à ce type de transaction. Quand bien même la loi serait modifiée en ce sens, il est peu réaliste que cela ne se produise à date proche. Stratégie 3. Rénover malin. Bien évidemment, les deux premières stratégies sont des stratégies de court terme, qui, bien que potentiellement fort rentables, on l'a vu, relèvent plus du one-shot que d'une possible stratégie pérenne, et dont l'efficacité ne dépassera pas 10 ans. Ainsi, la troisième et principale stratégie, celle du vrai long terme, va consister à rénover malin et à faire concrètement monter la note de logement acheté mal noté et donc à bas prix. Pour commencer, on l'a dit, les logements les plus mal notés sont principalement les petits logements, et plus exactement les petits logements comportant de grands volumes, c'est-à-dire avec une hauteur sous plafond importante. On comprend bien qu'un studio de 18 mètres carrés avec une hauteur sous plafond classique ne va pas avoir la même sensibilité au DPE qu'un studio de même taille avec une hauteur sous plafond de 4 mètres. Ces logements vont donc être fortement pénalisés, notamment en raison des calculs de surface déperditive que nous avons évoqués plus haut, basés sur le ratio surface murale vs surface habitable. Bien évidemment, il est inenvisageable d'isoler ce type de surface de façon rentable. Les travaux à réaliser seraient trop importants et coûteux par rapport aux bénéfices issus de leur exploitation. Mais il existe toujours des solutions, comme par exemple réunir des lots. En réunissant des lots mitoyens, vous augmentez la surface habitable et donc réduisez la proportion de surface déperditive sur le bien. C'est une excellente stratégie si vous vous focalisez, par exemple, sur des immeubles de rapport. Imaginons un petit immeuble contenant 8 studios, exploité comme logement étudiant. Il paraît probable que la configuration permettra d'en faire 4 appartements plus grands. Il s'agit même souvent de biens qui contenaient à l'origine plusieurs appartements plus grands qui ont été artificiellement aménagés en studio, ce qui facilitera la démarche de revenir à l'origine. ou encore rabaisser le plafond. C'est la solution évidente pour ce type de bien, avec des travaux moins importants que la méthode précédente, l'ajout et l'isolation d'un faux plafond étant peu onéreux et pouvant drastiquement changer la note DPE en réduisant le volume. Pour vraiment améliorer la notation d'un logement et avant d'entreprendre quelques travaux que ce soit, il convient de bien comprendre le travail du diagnostiqueur, puisque ces recommandations seront le point de départ de votre rénovation. Comme dans toutes les professions, bien sûr, il s'agit déjà de trouver le bon diagnostiqueur, puisque tous ne se valent pas, et donc d'évaluer ses compétences en se fondant sur ses recommandations et leur pertinence. Par exemple, remplacer un chauffage électrique classique par un chauffage électrique à inertie améliorera le confort de l'habitation, mais n'impactera en rien la consommation. C'est donc le type de recommandation pouvant alerter sur la compétence du diagnostiqueur. La base de toute amélioration va évidemment être d'une part l'isolation du logement et principalement l'isolation de toutes les surfaces qui communiquent avec l'extérieur, typiquement une couche de 10 cm de laine de verre ou autre matériau adéquat, et des fenêtres efficaces, récentes, à double vitrage. Toutefois, ces éléments ne sont qu'un point de départ qui, à eux seuls, ne suffiront pas à rectifier une mauvaise note. D'autres nombreux points sont également pris en compte et peuvent, en s'accumulant, commencer à faire peser la balance du bon côté. L'isolation des portes ou du sol, la ventilation. D'ailleurs, concernant la VMC, ventilation mécanique contrôlée, il convient de rappeler qu'elle est obligatoire dans les salles de bain ne disposant pas de fenêtres. Elles existent sous des formes très diverses, des plus simples, un ventilateur, aux plus perfectionnés, offrant des options de filtrage ou de restitution de chaleur. Ce sont toutefois des équipements qui peuvent très vite se révéler onéreux, puisqu'outre leur prix de départ, ils nécessitent une installation particulière et souvent complexe, et la création de divers branchements ne pouvant être réalisée que par des professionnels, tout en créant un poste de consommation supplémentaire dans l'appartement. Il peut donc être plus intéressant d'intégrer la présence de fenêtres dans la salle de bain ou d'une VMC simple ventilation existante dans vos critères de recherche de bien. Dans le cadre d'un immeuble de rapport, des solutions existent également permettant de relier 3 ou 4 VMC sur un seul appareil dans la cage d'escalier, réduisant et divisant l'investissement et le rendant plus rentable. Mais les deux principaux postes sur lesquels se concentrer sont en réalité le mode de chauffage et la production de l'eau chaude sanitaire. Il est donc plus intéressant d'essayer, sans négliger les autres points si le budget le permet, de se focaliser d'abord sur des solutions efficaces et économiques pour optimiser ces aspects cruciaux, plutôt que de gaspiller les fonds économisés en négociant le bien en 30 ou 40% de remise en raison de sa mauvaise notation dans des travaux qui ne suffiront pas à rehausser sa note. L'idéal, par exemple, sur un logement de 40 mètres carrés, c'est que le coût des travaux de rénovation énergétique ne dépasse pas 5 ou 6 000 euros en permettant de passer d'un G à un E ou un D. Concernant le chauffage, l'expérience prouve que la meilleure solution est celle des systèmes de pompe à chaleur, plus communément connus sous le nom de clim réversible. Le principal obstacle aujourd'hui pour beaucoup de logements est dû au montage en split, c'est-à-dire un appareil à l'intérieur du logement et une évacuation souvent volumineuse et peu esthétique devant être fixée à l'extérieur, ce qui n'est pas toujours possible en appartement, en ville ou en copropriété. En outre, ces appareils et leur installation sont souvent assez coûteux. Toutefois, on voit arriver sur le marché ces derniers temps de nouveaux modèles monoblocs présentant des pompes à chaleur intégrées et ne nécessitant plus d'installation séparée extérieure au logement. Certains de ces appareils sont plus qu'abordables, aux alentours de 400 euros, et certains peuvent même pallier l'absence de VMC pour moins de 500 euros. Les liens sont joints. En règle générale, un seul appareil de ce type suffit dans l'appartement s'il est convenablement isolé et remplace les multiples convecteurs habituels, sans négliger l'argument locatif et l'avantage de la fonction climatisation l'été. Concernant la production d'eau chaude, le DPE rend obsolète le traditionnel chauffe-eau de 100 litres et pose une difficulté assez contre-intuitive. En effet, la seule solution du point de vue de l'algorithme tel qu'il se présente aujourd'hui va être de réduire considérablement la taille du ballon, voire de le sous-dimensionner. Dans les faits, le locataire va donc probablement, en réalité, consommer plus d'énergie, notamment par l'utilisation de la marche forcée si la quantité d'eau chaude quotidienne est insuffisante. Toutefois, s'agissant strictement d'améliorer la note DPE, c'est la seule possibilité l'impactant effectivement. L'idéal semble donc être la pose d'un ou deux chauffe-eau électriques dits instantanés d'une contenance de 15 litres, pouvant être achetée en règle générale pour moins de 250 euros, en tout cas pour les studios et petits T1. Le lien est joint. Pour les appartements un peu plus grands et devant potentiellement accueillir plus d'un résident, le must va être l'installation d'un chauffe-eau thermodynamique. Il s'agit en fait, là encore, d'un système de pompe à chaleur, ne nécessitant pas d'installation extérieure, qui s'avère très efficace puisqu'il consomme en moyenne 70% d'énergie en moins par rapport à un chauffe-eau classique. Ces modèles sont bien sûr un peu plus onéreux et peuvent se trouver pour des montants se situant entre 1500 et 2000 euros. Les liens sont joints. Là encore, ces systèmes existent en plusieurs volumes et il convient de se rappeler que moins la capacité est importante, plus la note s'améliore, et de s'orienter sur des modèles 80 à 110 litres maximum plutôt que 200. Ces deux postes de travaux peuvent ainsi chacun vous faire gagner une lettre, passant de G à E à moindre frais. Et si un petit budget supplémentaire est alloué, comme on l'a dit, aux murs, fenêtres et autres détails, le passage de G à D est quasiment garanti pour moins de 5000 euros de travaux d'amélioration, voire assez suivant l'ajustement progressif de l'algorithme. Et, ne nous voilons pas la face, la qualité et la bonne volonté du diagnostiqueur. Sur ce dernier point, bien évidemment, il faut garder en tête et rappeler une nouvelle fois que le diagnostic est effectué par des personnes avec leurs qualités et leurs défauts, et qu'il vaut mieux refaire un diagnostic que de conserver un expert qui, par exemple, inscrira « pas d'isolation » sur un mur alors qu'il ne sait pas, plutôt que de ne rien mettre, puisqu'il ne peut pas concrètement vérifier le mur. C'est aussi pour cela qu'il sera important de conserver et communiquer l'intégralité des factures, descriptifs et suivi des travaux réalisés et des équipements installés afin de mettre tous les atouts de votre côté. Plusieurs tests ont été réalisés par des associations et il peut y avoir jusqu'à 2 lettres d'écart entre 2 diagnostics sur un même bien. Donc n'hésitez pas à faire réaliser plusieurs diagnostics et à conserver le plus favorable. En amont, il existe même une possibilité de solliciter auprès des diagnostiqueurs une notation projetée en fonction des travaux prévus. Il ne faut donc pas hésiter à en user et à solliciter votre diagnostiqueur à chaque étape ou avec un projet complet afin de constater en temps réel l'avancée possible de votre note. Il convient également de se tenir au fait des évolutions légales concernant le DPE, puisqu'il est en constante mutation, et notamment de surveiller la probable et attendue rectification confirmant les logements de petite surface, le probable et espéré élargissement des aides à la prise en charge des travaux aux SCI, qui ne sont pas bénéficiaires aujourd'hui des coups de pouce gouvernementaux. Analyse des annonces FEG. Sur le site Le Bon Coin notamment, il est possible de filtrer les annonces par note DPE. C'est donc le premier outil à utiliser pour présélectionner les biens qui peuvent potentiellement vous intéresser. Ensuite, les photographies et le corps de l'annonce vont vous permettre de dégager de nombreuses informations pertinentes. Type de chauffage et de fenêtres, éventuellement type et volume du chauffe-eau, état des murs, sol et plafond, distribution des pièces pour estimer la circulation de la chaleur, surface habitable et hauteur sous plafond, surface communiquant avec l'extérieur et surface mitoyenne pour évaluer la proportion de surface déperditive, à éviter donc les appartements d'angle, par exemple, qui ont trop de murs donnant sur l'extérieur, ou les derniers étages au rez-de-chaussée qui n'ont pas de mitoyenneté au-dessus ou en dessous. Renseignements sur la copropriété, charges, politique de travaux, chauffage collectif ou pas. L'appartement F ou G idéal, c'est-à-dire déjà peu cher, pouvant être négocié en raison de ses défauts et aisément améliorable à moindre coût, pourrait être, par exemple, une petite surface hors studio, T2 ou T3, entre 35 et 45 mètres carrés, ancien mais bien entretenu, afin que les travaux portent essentiellement sur l'optimisation énergétique et non sur la rénovation pure, à un étage intermédiaire et mitoyen, puisqu'aucune isolation ne pourra compenser des murs donnant sur l'extérieur, c'est la raison pour laquelle nous ne nous intéressons qu'à des appartements en immeuble et non à des maisons individuelles, et avec chauffage individuel, idéalement des convecteurs ou grilles bains pouvant être remplacés, avec des fenêtres anciennes et sans double vitrage, haut de plafond, pour poser un faux plafond permettant d'améliorer la note à peu de frais si le budget le permet, ou bas de plafond pour économiser sur ce poste générateur de mauvaise notation. Avec une chaudière à gaz ou un chauffe-eau grand volume pouvant être remplacé suivant les modalités que nous avons évoquées, et enfin mise en vente depuis un certain temps, et donc dont le propriétaire est de plus en plus convaincu que son appartement n'est plus exploitable et sera inquiet et pressé de vendre. En conclusion, le DPE et son évolution sont bien aujourd'hui et pour quelques années encore une opportunité d'optimiser son patrimoine et d'investir intelligemment avec de substantiels gains à la clé, notamment dans une démarche d'acquisition à visée locative. En outre, pour favoriser la rénovation énergétique, des aides financières sont disponibles pour les particuliers et peut-être bientôt pour les SCI. Les particuliers peuvent bénéficier des aides MaPrimeRénov, lien joint, qui viennent désormais en remplacement du crédit d'impôt pour la transition énergétique, des primes délivrées au titre des certificats d'économie d'énergie, lien également joint, des aides de l'Agence nationale de l'habitat, des aides d'Action logement ou d'un taux de TVA réduit. L'éco-prêt à taux zéro, lien également joint, leur permet de financer le reste à charge. Des aides sont également disponibles localement, telles que les primes distribuées par la Commission de régulation de l'énergie en Corse et en Outre-mer, au titre d'action de maîtrise de la demande en énergie. Certaines aides, comme MaPrimeRénov, peuvent être majorées si les travaux de rénovation énergétique permettent de faire sortir le logement de ses étiquettes F et G. Dans ce cas de figure, le DPE sert de base à une bonification comprise entre 500 et 1500 euros. De plus, le même dispositif existe si les travaux permettent d'atteindre un niveau bâtiment basse consommation, étiquette A et B du DPE. Dans ce cas, on pourra une fois encore profiter d'une bonification allant de 500 à 1500 euros supplémentaires. Il n'existe donc plus aucune excuse pour ne pas saisir au plus vite cette opportunité tant que la législation reste évolutive, que l'algorithme de notation ne peut que s'améliorer et que les propriétaires des passoires énergétiques demeurent dans un état de panique et de confusion qui risque de ne pas durer.